Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vais vous raconter comment se sont passées les choses. J'ai d'abord écrit votre histoire, et puis quand j'ai eu terminé, j'ai écouté votre nouvel album, le 8e,
oui.
Qui sort là. Et cet album est terriblement optimiste.
Oui.
Il est presque joyeux.
Oui.
Alors bien sûr, tout ça c'était il y a 25 ans, mais je me suis dit comment il fait ? Comment il fait pour être optimiste ? Comment il fait pour être joyeux ? Et même pour être heureux, parce que vous le dites dans une chanson. Je suis heureux.
Ouais, c'est... Tout d'abord, je suis très bouleversé par le récit qui est en fait le mien, mais que vous avez raconté.
Je vous ai prêté ma voix.
C'est très étrange de se faire raconter sa propre histoire. C'est très très étrange, je suis passé par plein d'émotions. D'abord, il y a eu une espèce de séparation entre moi et la personne qui a vécu ces choses-là. J'ai du mal à faire le lien entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, je vis au Canada, une vie confortable.
Vous avez deux enfants, j'ai deux enfants,
une femme, je suis marié, une femme que j'aime. Et le gamin qui raconte cette histoire, j'ai beaucoup plus de facilité à m'identifier au gamin qui arrivait au Rwanda, qui était un peu paumé parce que...
Le petit
qui était complètement dépaysé, 6 ans et demi. Ouais. J'ai aucun problème à accepter que c'est bien moi. Mais le gamin de 17 ans après le génocide, c'était très étrange. C'est très étrange. C'est presque un autre. Et quand je disais que j'étais passé par plein d'émotions, la première émotion a été. J'ai eu un moment de colère, pour être honnête, parce que j'avais l'impression qu'on me volait mon histoire pour la mettre au grand jour, puis pour ensuite me rendre compte que je l'avais fait moi-même. Et donc, j'étais mal pris parce que je pouvais pas vous taxer d'exhibitionnisme ou de mauvaise foi, parce que c'est vrai que quand j'ai sorti mon premier album, dès que mon histoire a été
un peu connue,
survivant du génocide rwandais est devenu mon nom de famille. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on me présentait partout. Je me rappellerai toujours la première fois où je suis allé au Victoire de musique où j'ai chanté, qu'il a fallu me présenter. Je pense que c'était Monsieur Delarue qui m'avait présenté, qui avant même de dire l'auteur-compositeur-interprète Corneille, c'était le survivant du génocide rwandais. C'était un drôle de titre. C'était un titre très étrange quand justement on se dit qu'on essaie de faire de l'art justement pour s'en sortir, finalement se rendre compte qu'on est en train de s'enfoncer de plus en plus dedans. Donc c'était très étrange comme expérience, très étrange. Et en même temps, il y avait quelque chose de bizarrement libérateur d'entendre l'histoire racontée par vous. Parce que la raison pour laquelle j'ai écrit le livre, c'était une façon de me réapproprier mon histoire. Il a fallu 20 ans. J'avais l'impression que mon histoire, surtout avec la notoriété que j'ai acquise avec mon premier album, j'ai eu l'impression que l'histoire m'avait été enlevée, dérobée, qu'on me l'avait volée, et que le pire, j'y avais contribué en plus. Et j'ai écrit ce bouquin pour retrouver la propriété de cette histoire. Mais là, l'entendre de la voix de quelqu'un d'autre, avec une mise en scène, parce qu'il y avait de la musique, le bruitage, les effets sonores, les coups de feu étaient très... parce qu'écrire des coups de feu, ce sont des mots. Les mots restent quand même, dans une certaine mesure, aussi concrets que celui qui les lit. Mais un son est un son. C'est-à-dire que là, j'ai entendu
le
vrai son. Ça me perturbait en même temps. J'ai fait cet exercice-là pendant... j'ai fait 4-5 ans de thérapie de façon assez régulière. Je me rappelle, ma psy, elle avait une pratique qu'on appelle EMDR en anglais, une espèce de... ça ressemble un petit peu à de l'hypnose, mais c'est pas vraiment ça, mais en tout cas... On fait remonter le trauma pour reprendre un vrai contact émotionnel avec le passé, un passé traumatique, et j'avais l'impression que ça, le fait de l'avoir fait me permet d'entendre ces coups de feu, sans avoir l'impression d'y replonger et de faire marche arrière. Et en même temps de l'accepter parce que c'était ça l'histoire.
Je me disais à l'écoute de votre 8e album qui sort, que les chansons étaient incroyablement joyeuses et je me demandais comment ça se passait quand vous écriviez vos chansons. Alors cet album, c'est particulier, vous l'avez écrit avec votre femme, à deux voix. Mais quand vous vous asseyez une table avec une feuille de papier et que vous laissez aller au fond vos sentiments, qu'est-ce qui apparaît en premier? Est-ce que c'est les moments très douloureux de votre vie que je viens de raconter ou pas? Spontanément comme ça, c'est ça qui surgit?
Spontanément, je pense que la première chose qui arrive, c'est l'espoir. Ou j'ai envie de dire, plus que l'espoir, le déni.
Voilà. Ça, c'est juste.
Se dire, j'aimerais que le passé, mon passé, ait été différent. C'est la première chose. Et après, la raison se met à...
Et la raison, c'est l'espoir.
Et la raison, c'est l'espoir.
La raison, c'est je vais transformer tout ça. Et je vais en faire quelque chose de beau.
Ouais. C'est complexe comme question. Parce que mon premier album... dont je fais une lecture complètement différente que
du grand public, vous voulez dire.
Oui, oui.
Nous, on le lit au sens littéral.
Non, même par rapport à mon état d'esprit au moment où j'ai écrit l'album. Il y a des chansons que j'entends aujourd'hui ou que je chante aujourd'hui en concert et dont je fais une lecture tout autre parce que j'ai l'impression qu'une grande partie de cet album a été écrite par mon inconscient. Je ne pense pas que j'avais les capacités cognitives ni la solidité psychologique pour écrire ce que j'ai écrit dans mon premier album. Il y a une autre entité, une autre dimension de moi qui a écrit cet album-là, mais il était très vrai. Il était, quand je parle de solitude dans Seul au monde, c'était très honnête. Et je pense que j'ai perdu un petit peu de cette honnêteté à travers les années, au fil du temps, avec les albums qui ont suivi.
En fait, personne ne vous le reprochait d'ailleurs, mais vous auriez pu passer votre vie à écrire sur votre douleur, à écrire sur votre trauma.
Oui, parce que
mais vous en empêchez.
La vie m'en a empêché quand même. C'est très difficile de vouloir parler de ces traumas quand on rencontre au quotidien...
La joie des enfants.
La joie des enfants, et même avant les enfants. Des gens qui te disent, on vous aime, est-ce que vous écrivez ce que vous chantez, nous fait du bien.
Oui, mais quand ils partent les gens, quand on se retrouve tout seul à la table pour écrire la chanson...
On est seul avec son passé. Mais on retrouve les gens le lendemain. Et c'est un cycle qui ne termine jamais.
Vous diriez aujourd'hui que vous vous obligez à être optimiste? Vous vous obligez à être joyeux?
Plus maintenant, mais je l'ai déjà fait. Je me suis déjà forcé à être optimiste. Je me suis déjà borné, obstiné à vouloir faire de l'avenir quelque chose d'inévitablement bon et heureux.
Quand on lit votre livre... qui est vraiment la base de mon histoire, dont j'ai repris les mots. On voit que vous avez, même sous les mots, du mal à dire les choses.
Ouais.
Il faut donc aller les deviner, en vérité, les choses.
Ouais.
Entre les mots, on vous a beaucoup reproché de ne pas pleurer quand vous chantez les chansons du premier album, par exemple.
Ouais.
J'en ai conclu que vous étiez quelqu'un d'extrêmement pudique.
Très.
Et qu'au fond, vous ne pourriez jamais la raconter totalement, cette histoire.
Je l'ai racontée à une seule personne, ma femme. Et je la raconterai un jour à mes enfants. Et en même temps, je pense que les zones de cette histoire où j'aurais eu la tentation de tricher et de mentir, je ne l'ai pas fait. J'ai dit la vérité. Et c'est en grande partie pourquoi j'ai écrit ce livre. J'avais envie de clarifier un certain nombre de choses qui ont besoin de beaucoup de mots pour être claires. Qu'on ne peut pas raconter de façon claire en chanson. C'est quasi impossible d'être concis et clair en même temps. C'est un oxymore, ça ne va pas ensemble.
Je comprends tout à fait.
Et dans le livre notamment, le simple fait d'être rwandais et d'être de notoriété publique en Occident présente en soi un grand, grand, grand problème parce que je dois prêter la voix à plusieurs personnes qui ne veulent pas du tout parler la même langue et qui en fait s'identifient dans leur contradiction et dans leur opposition.
C'est-à-dire vous prêtez votre voix au Hutu et au Tutsi par exemple, les deux?
Oui, les deux, parce que le génocide a bien eu lieu, le génocide visait bel et bien les Tutsis, il y a eu des...
Et vous êtes le contre-exemple.
Et moi je suis le contre-exemple, alors ça devient très très compliqué
Vous vous êtes un Hutu victime des Tutsis, ce qui n'est pas le sujet de ce conflit et de ce génocide.
Ce qui n'est pas du tout le sujet du conflit, mais qui est mon
excuser,
histoire.
Presque.
Mais ça n'en fait pas moins mon histoire. Alors, tout à fait, il faut presque s'en excuser. Et ça devient très très complexe, et j'ai essayé de l'expliquer dans le livre, avec un succès relatif. Mais comme tous les conflits qui opposent les hommes, on pour me munir d'une machette ou d'une arme automatique et venir... et assassiner toi et toute ta famille, je dois m'investir d'une raison. Il faut que j'ai une raison de le faire, autrement je ne le ferai jamais. Même un psychopathe doit se donner une raison. Il faut trouver une raison à le faire, et malheureusement, ces raisons persistent avec le temps. Il y a très peu de tueurs qui arrivent à un niveau d'examen psychologique où ils se disent eux-mêmes « j'ai souffert ou je souffre toujours d'une pathologie qui m'a amené à... » Et j'en suis le seul responsable, et ça n'avait pas lieu d'être. Il y a très peu. Tous les tueurs ont une raison. Les grands tueurs, en tout cas les tueurs de masse, sont toujours investis d'une mission et d'une raison.
Peut-être pour un peu de légèreté, j'ai adoré l'anecdote sur le choix de ce qui finalement a été votre nom de scène. Pendant toutes ces années, là, ces 10 années où vous avez décidé, vous, dans votre tête, de vous appeler Corneille, alors que sur le papier, vous appelez Cornelius. Et en fait, si j'ai bien compris, beaucoup de gens vous appellent Connie.
Ouais, ouais.
On vous appelle Corneille finalement là-bas à ce moment-là.
Ouais. Oui, on essaye. En plus, Corneille, ça reste quand même, ça a une sonorité franco, ouais. En tout cas française. Et ouais. Le Rwanda n'était pas, mais définitivement pas à l'école où j'allais. C'était pas une école francophone. On parlait ouais. Kinyarwanda. Ouais. Le français était la deuxième langue. Très peu de gens parlaient français, même les profs, je pense, parlaient un français approximatif.
Donc ils n'arrivaient pas à
prononcer. Donc ils n'arrivaient pas à prononcer Corneille, donc ça donnait Colonel, ce qui finit par dire colonel. donc un grade dans l'armée, et donc ils s'en sortaient pas. Et Connie, en fait, c'était un petit nom que mes parents m'avaient donné, et donc je me suis occupé à le distribuer autour de moi pour qu'on arrête de...
Donc c'était Connie finalement.
Bon, voilà, c'était Connie. Ouais.
Pendant toute cette période, ouais. C'était Connie. Ouais. Jusqu'à quel point est-ce qu'aujourd'hui encore vous êtes un Umuzungu, c'est-à-dire un blanc?
Ah, je suis redevenu un noir.
Parce que vous êtes chez les blancs.
Parce que je suis chez les blancs. c'est un petit peu le drame de ma vie, c'est-à-dire que je n'ai jamais pu être qu'une chose. Et ça peut être très chiant par moment, parce qu'il m'est souvent arrivé d'avoir une identité facilement... explicable, une identité figée, fixe. Je suis ça, et c'est clair pour tout le monde. J'ai jamais pu l'être. Au Rwanda, j'étais trop blanc pour les Rwandais. En Occident, je suis noir de façon très très claire.
Et très foncé en même temps.
Et très foncé en plus, et très foncé. Et en même temps, ça me donne la possibilité de je pense que ça m'offre un regard peut-être différent. Différent sur une société qui, de toute façon, tend à perdre ses identités premières, par la force des choses.
Par la mixité.
Par la mixité, et puis par le DAS qu'on a comme personne, et définitivement les plus jeunes, à vouloir être nous-mêmes en dehors du groupe, à remettre l'individu devant. Moi, je pense que c'est important de renverser la vapeur et de parler de l'individu pour se rendre compte finalement que l'universalité est dans l'individu et non pas dans le groupe.
Le livre s'achève sur une question de votre fils.
Ouais.
On ira au Rwanda un jour, papa.
Ouais.
Et vous répondez, on ira.
Ouais.
Et on n'y est pas allé encore.
Oh non, pas encore.
Il y a des Cambodgiens qui ont mis 50 ans.
Ouais.
Et des Juifs qui ont mis 50 ans pour tourner à Auschwitz. Donc vous avez du temps.
Je suis très touché par ce que vous venez de dire, parce que ça va... est désormais ma réponse à chaque fois qu'on me posera la question. Parce que c'est très dur d'expliquer ses propres raisons. C'est dur. La singularité est toujours dure à illustrer. Alors que quand on donne des exemples concrets comme ça, ça fait beaucoup de sens.
J'ai raconté ici l'histoire d'un juif qui, pendant 50 ans, n'a pas expliqué qu'il était rescapé des chambres à gaz. Je vais vous faire passer ce petit livre, vous écouterez cette histoire en podcast.
Merci.
Et vous verrez que vous n'avez pas de gêne à cela. À ne pas retourner là-bas tout de suite.
Oui,
50 ans pour le dire à sa femme. À sa femme.
Ouais. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce qu'il y a une culpabilité, surtout quand on connaît la notoriété. Il n'y a pas beaucoup de Rwandais Je connais pas de survivants du génocide rwandais de notoriété, on va dire internationale, dans les arts ou dans d'autres domaines. Si on a, on n'a pas beaucoup. C'est une pression supplémentaire, puisque forcément on a envie de parler au nom d'eux, au nom de ceux. Mais on ne peut pas le faire, je ne pourrai jamais le faire, je ne pourrai pas le faire justement tant que je ne serai pas retourné au Rwanda.
Voici donc un extrait de votre dernier album, le 8e. La chanson s'appelle Tout le monde.
Et tout le monde est personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse, bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le reste qu'on apprend. On est fait de prières et de nos voeux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi, qui est comme moi? Personne.
Un immense merci, Corneille, d'avoir accepté que je vous prête ma voix pour raconter votre histoire. Je rappelle ce livre, Là où le soleil disparaît, je le conseille à tout le monde, il est toujours disponible, il est paru aux éditions XO. À bientôt, Corneille.
À bientôt, Christophe. Merci de m'avoir invité.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.